sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Madame la directrice de cabinet représentant le président de la République, Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Monsieur le sénateur, Monsieur le grand chancelier de la Légion d'honneur, Monsieur le préfet de région, Monsieur le chancelier, Mesdames et Messieurs les secrétaires perpétuels, Monsieur le recteur de l'Académie de Paris, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, je déclare ouverte la séance solennelle de rentrée des cinq académies qui se tient selon l'usage le mardi le plus proche du 25 octobre, jour anniversaire de la création de l'Institut en 1795. La tradition et les statuts de l'Institut de France qui se composent des cinq académies veulent que pour notre séance commune, le bureau de l'Institut choisisse un thème de réflexion développé par les délégués de chaque académie et qui nous en feront découvrir les différents aspects. Le thème retenu cette année est « Le passé est-il passé ?» Ainsi interviendront successivement M. Georges-Henri Soutou, délégué de l'Académie des sciences morales et politiques, pour la lecture de son discours intitulé « Le passé entre obsession et oubli. Monsieur Paul Andreu, délégué de l'Académie des Beaux-Arts, pour son discours intitulé « Un passé encombré et fragile ». Monsieur Thibaut Damour, délégué de l'Académie des Sciences, pour son discours « Le temps passe-t-il ». Monsieur Bernard Potier, délégué de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, pour son discours « Les mémoires du présent ». Monsieur Philippe Bossan, délégué de l'Académie française, pour son discours intitulé « Le passé est-il présent ?». Le thème de cette année, « Le passé est-il passé ?», a de profondes résonances dans l'ordre philosophique comme dans l'ordre scientifique. La question posée met en jeu la mémoire des hommes et celle des civilisations. La première concerne la langue. Il en sera question au cours de cette séance. La seconde fait appel aux disciplines historiques et particulièrement à la présence matérielle du passé que met au jour l'archéologie. Permettez à l'archéologue que je suis d'en dire un mot très bref, car il n'en sera plus question aujourd'hui. Les traces matérielles du passé nous parlent de plus en plus clairement grâce au progrès des sciences de la Terre et de la vie. On a fait appel depuis longtemps pour les datations aux mesures du carbone 14, mais aussi d'autres corps simples avec des méthodes qui n'ont pas cessé de gagner en précision. Les restes végétaux qui ont été interrogés dans la même perspective, comme c'est le cas pour la dendrochronologie, mais nous fournissent en même temps des informations sur l'environnement, les cultures et la mise en valeur du territoire. Un autre exemple, l'inscription dans l'espace de l'occupation humaine et divine fournit un autre exemple de renseignement. Ainsi, on a constaté qu'un grand nombre de sanctuaires du Proche-Orient sont tournés vers l'est et que leurs portes s'ouvrent dans cette direction. Au moment de l'ouverture du temple, qui est un rite quotidien essentiel dans les différentes régions autour de la Méditerranée et au Proche-Orient, cette orientation permet à la lumière de pénétrer jusqu'au fond du temple et d'illuminer les représentations divines qui sont au centre du culte. Les petites variations que nous constatons dans cette orientation semblent correspondre, dans certains cas, au lever du soleil à une date précise, désormais fixée dans la mémoire par le rituel. C'est celle d'une fête majeure et sans doute aussi celle de la fondation du monument. On a pu relever ainsi à Petra l'insertion dans l'espace d'une centaine de petits sanctuaires qui témoignent à travers les cultes pratiqués de la distribution de groupes sociaux dans un espace largement ouvert. L'espace a enregistré le temps. Ainsi, guidé par le terrain, l'archéologue a la ressource d'aller plus loin, en faisant cette fois appel aux objets découverts et surtout aux témoignages écrits, des inscriptions et des sources littéraires, où le passé se dessine souvent sous des formes plus explicites et vient finalement rejoindre, à travers le livre, le passé de notre propre culture et de notre vie personnelle. La parole est maintenant à M. Thibaut Damour, physicien, délégué de l'Académie des sciences, pour la lecture de son discours.
Le temps passe-t-il ? Pourrais-je avoir la première diapo, je vous prie ? La fuite du temps est un sentiment profond de la plupart des êtres humains, et du coup un thème récurrent en poésie et littérature depuis le Pantareil d'Héraclite jusqu'à la célèbre prosopopée de Lamartine, « Autant suspend ton vol », en passant par les devises des cadrans solaires que vous pouvez voir sur cette diapo. La conception habituelle du temps est, premièrement, qu'il est extérieur à l'univers matériel et continuerait à exister même si toute la matière disparaissait, qu'il est commun à toute la réalité et qu'il passe ou coule en entraînant d'une manière irréversible le maintenant du passé vers le futur. Cette conception commune du temps a été incorporée dans la description scientifique de la réalité au XVIIe siècle par Galilée, Descartes et surtout par Newton. La figure que vous pouvez voir montre la célèbre scolie de Newton où il hypostasie la durée vécue en un temps absolu, vrai et mathématique, sans relation à rien d'extérieur, qui coule uniformément. Le point essentiel de cet exposé va être d'indiquer que les développements de la physique au XIXe et XXe siècle suggèrent une image du temps très différente de la conception habituelle et de sa version mathématisée par Newton. D'abord, le temps ne doit pas être hypostasié en une réalité indépendante du contenu matériel de l'univers, et surtout, la physique nous suggère que le passage du temps est une illusion. Commençons notre description par ce que nous suggère la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Lors de la venue d'Einstein à Paris en 1922, nombre de journaux, et vous pouvez peut-être voir sur la diapo quelques-uns des titres des articles de ces journaux, parus donc en avril 1922 à Paris, ces journaux ont résumé l'impact de la théorie de la relativité par une phrase du genre « Le temps n'existe pas », dit Einstein, ou « Le temps illusion ». Prochaine diapo, je vous prie. Ce dessin humoristique que vous pouvez peut-être voir, qui dit « Le temps n'existe pas à Einstein », Einstein veut peut-être parler du beau temps, indique que certains journalistes hésitaient sur le sens à donner à la phrase. La plupart des journalistes ne comprenaient sans doute pas en détail l'apport de la théorie de la relativité, mais ils avaient correctement senti que cette théorie bouleversait la conception habituelle d'un temps commun à toute la réalité, entraînant dans son passage le maintenant du passé vers le futur. En effet, cette théorie, la théorie de la relativité restreinte, remplace l'idée que la réalité est constituée par une succession temporelle de configurations spatiales de la matière par le concept de bloc espace-temps quadridimensionnel. Bon. En termes simples, l'espace-temps est une généralisation des diagrammes de train que l'on utilisait autrefois à l'école pour résoudre les problèmes de rencontre de train. Vous vous en souvenez sans doute, un train rouge quittait une première gare à telle heure et avec telle vitesse, alors qu'un train bleu quittait une deuxième gare en direction de la première, en partant à une heure différente et avec une vitesse différente. La question était de trouver le lieu et l'heure de croisement des deux trains. Et on nous apprenait à trouver la réponse de façon géométrique, en dessinant un diagramme dont l'axe horizontal repérait la position des trains le long de la voie, alors que l'axe vertical repère le temps. Et dans ce diagramme, le mouvement des trains était des lignes. Bien. Un problème de ce type est illustré dans la figure que vous pouvez voir pour le cas de la rencontre de deux boules se déplaçant l'une vers l'autre sur un billard. À gauche, on voit la succession temporelle, du bas vers le haut, des configurations spatiales des boules sur la table de billard. Au début, elles sont éloignées l'une de l'autre, et puis de plus en plus proches, et elles se cognent. À droite, on a le diagramme obtenu en empilant les unes sur les autres la succession continue de ces configurations. Ce diagramme de droite est un espace-temps tridimensionnel où le temps s'est ajouté comme troisième dimension verticale aux deux dimensions horizontales de la table de billard. On obtient un bloc espace-temps, comme celui qui est représenté, quand on fait complètement abstraction de la décomposition en tranches temporelles, celle que l'on voit à gauche, c'est-à-dire des sections horizontales correspondant à la vision habituelle illustrée à gauche. Donc, à droite, les choses ont changé. La figure suivante, où l'espace est réduit à une seule dimension spatiale, contraste la vision newtonienne, mais c'est aussi la vision habituelle, de la réalité à gauche avec la vision einsteinienne à droite. Dans le cas newtonien, la seule réalité qui existe est l'instant présent figuré par la tranche verte. Ce présent, ou ce maintenant, est conçu comme se déplaçant progressivement vers un futur en pointillé, qui n'existe pas encore, en laissant derrière lui un passé qui a existé, mais qui n'existe plus. Dans le cas einsteinien, à droite, le concept de présent ou de maintenant, c'est-à-dire l'existence d'une tranche horizontale mouvante particulière, a disparu. Et la réalité est constituée des lignes atemporelles tracées par les particules de matière dans le bloc espace-temps. Sur quoi Einstein s'est-il fondé pour conclure que, je cite, « le temps subjectif, avec son maintenant, ne doit avoir aucune signification objective. Il s'est fondé sur une conséquence observable de la relativité qui a été amplement vérifiée par l'expérience. Cette conséquence joue d'ailleurs un rôle important dans les systèmes modernes de localisation, comme le système GPS, qui ne fonctionne que parce que l'on a inclus la théorie de la relativité dans son logiciel. Si l'on considère deux jumeaux, dont l'un, qui est figuré par la ligne verticale marron, donc dans ce bloc espace-temps, donc l'un de ces deux jumeaux, la ligne verticale marron, reste sur Terre, alors que l'autre, figuré par la ligne verte qui est brisée, qui forme un angle, représente un jumeau qui s'éloigne à grande vitesse avant de revenir sur Terre aussi à grande vitesse. La théorie de la relativité nous dit, et les faits ont vérifié, que le jumeau voyageur sera plus jeune que son frère quand il le retrouvera au point C. C'est cette conséquence centrale de la relativité que Bergson n'a jamais voulu accepter, car elle faisait trop violence à son intuition de la durée. Dans l'expérience de pensée, où la vitesse du jumeau voyageur est très proche de celle de la lumière, le jumeau voyageur peut, de façon quasi instantanée pour lui, faire un saut arbitrairement grand dans le futur. Disons qu'il peut voir et vivre ce que sera la Terre dans 60 millions d'années en ayant voyagé seulement pendant une heure de son temps. Donc les voyages quasi instantanés dans le futur sont possibles d'après la théorie de la relativité restreinte. Les distorsions possibles du temps peuvent être encore plus spectaculaires si l'on considère la théorie de la relativité générale d'Einstein. Dans cette théorie, la structure chronométrique et géométrique de l'espace-temps est intimement liée à son contenu matériel. En utilisant ce lien, le mathématicien Gödel a montré, en 1949, qu'il existait des univers cosmologiques hypothétiques satisfaisant aux équations d'Einstein, où il est possible de voyager vers le passé et non plus seulement vers le futur. Comme l'illustre la figure que vous pouvez voir, un voyageur d'espace-temps peut quitter la Terre au point Q, le point qui est plus haut sur le diagramme, puisque le temps anciennement représente la verticalité ici. Donc un voyageur peut quitter la Terre au point Q pour revenir ensuite sur Terre à un point P qui, pour les habitants restés sur Terre, est dans le passé de l'événement Q. Par exemple, ce voyageur peut partir maintenant pour aller observer les dinosaures avant leur disparition il y a 65 millions d'années dans cet univers hypothétique. Alors que l'exemple précédent montrait que le futur existe déjà, cet exemple hypothétique suggère que le passé existe encore. Cette autre figure illustre deux autres modifications majeures de la conception habituelle du temps qui deviennent possibles en relativité générale. D'une part, à cause de leur lien avec la matière, l'espace et le temps peuvent apparaître ou disparaître au voisinage de certains bords de l'espace-temps, appelés Big Bang ou Big Crunch, et ne plus faire sens au-delà. Donc le bas de ce diagramme ainsi que le haut sont des bords de l'espace-temps. Au-delà de ces bords, il n'y a plus ni espace ni temps. D'autre part, rien ne garantit a priori que le temps s'écoule, ou plutôt semble s'écouler, partout dans le même sens. Autrement dit, il est possible que des événements qui sont dans le futur de certains habitants de l'espace-temps, et donc ne soient pas encore advenus, soient dans le passé d'autres habitants, et donc aient déjà eu lieu pour ces derniers. C'est ce qui illustre les flèches sur le diagramme qui représentent le sens local du temps. Jusqu'ici, nous avons dit que si l'on prend au sérieux l'image de la réalité donnée par les théories de la relativité, le réel doit être pensé sub specie aeternitatis comme un bloc où le passé et le futur existent avec le même degré de réalité et où le présent ne garde, comme l'a écrit Einstein, que la valeur d'une illusion, si tenace soit-elle. Mais Qu'est-ce qui explique cette illusion tenace du passage du temps ? En faisant l'hypothèse scientifique habituelle d'un parallélisme physico-psychologique, l'origine de cette illusion se trouve dans ce qui s'appelle le second principe de la thermodynamique. Ce principe stipule essentiellement que le désordre d'un système fermé, mesuré par son entropie, S, ne peut qu'augmenter. Un verre qui tombe se brise en de nombreux éclats, alors qu'on n'a jamais vu de nombreux éclats de verre se rassembler pour reformer un verre. Mais quelle est l'origine de cette irréversibilité postulée par ce second principe et absente des lois fondamentales de la physique, lesquelles sont toutes réversibles ? Cette origine a été élucidée par le développement de la physique statistique au XIXe siècle. Ludwig Boltzmann comprit que la croissance continuelle du désordre n'était pas liée à une quelconque irréversibilité fondamentale de l'écoulement du temps, mais qu'elle s'expliquait par le fait que l'on considérait, en thermodynamique, des systèmes dont l'état initial était très spécial et contenait beaucoup plus d'ordre qu'un état pris au hasard. En 1897, Boltzmann alla plus loin en suggérant que l'origine d'un tel état initial spécial autour de nous était due à une fluctuation aléatoire au sein d'un immense cosmos où la flèche du temps ne pointerait pas partout dans la même direction. Un tel univers est représenté ici sur cette diapo. Un tel univers, imaginaire mais compatible avec les lois de la physique, contiendrait des poches antichrones où, par rapport à notre façon de vivre, le temps s'écoulerait à l'envers. Dans ces poches antichrones, c'est-à-dire celles où la flèche du temps ici n'est pas la même que chez nous, les vers cassés à terre se reconstitueraient pour sauter sur une table, les êtres vivants rajeuniraient, etc. Mais les habitants des régions antichroniques de cet espace-temps vivraient sous l'influence d'un second principe de la thermodynamique inversé temporellement par rapport au nôtre, c'est-à-dire en grimpant la pente de croissance locale de l'entropie, et auraient donc, comme nous, l'illusion de vieillir, puisque ce qui détermine le sentiment intime du temps, c'est en fait la croissance du désordre, donc la croissance de l'entropie. Cette grandiose conception de Boltzmann, c'est-à-dire la conception qu'il existe aujourd'hui peut-être très loin dans l'univers des régions où le temps s'écoule à l'envers par rapport à notre sens du temps, fait actuellement le sujet d'intenses recherches dans un cadre cosmologique renouvelé par la relativité générale et la théorie quantique. Je suis conscient que le sens intime de la durée qui habite la plupart d'entre nous, êtres humains, et certains de nos frères animaux, est si prégnant qu'il est difficile d'accepter la suggestion faite par la physique que le passage du temps est une illusion. Rappelons cependant que cette idée a été défendue par toute une tradition philosophique allant de Parménide à MacTaggart. Il faut aussi compter Emmanuel Kant dans cette tradition. Vous avez ici une citation complète de Kant, dans laquelle il affirmait clairement que le temps n'était qu'une condition subjective de notre humaine intuition et qu'en lui-même, il n'était rien en dehors du sujet. J'aimerais, pour finir, faire appel aussi au témoignage d'artistes. D'abord, un beau texte de Mozart indique que, quand une œuvre musicale est achevée dans son esprit, il peut embrasser le morceau entier d'un seul coup d'œil comme un tableau ou une statue, et que, dans son imagination, il n'entend pas l'œuvre dans son écoulement, mais plutôt comme un seul bloc intemporel. Enfin, rappelons la proximité intellectuelle pour leur vision du temps entre Proust et Einstein, et c'est ce que la diapo indique. Certains lecteurs de Proust trompé par le titre général de son œuvre maîtresse, À la recherche du temps perdu, pense que le concept proustien de temps est celui d'un temps qui passe inexorablement et dont l'homme ne peut que regretter la fuite irréversible. Mais, en réalité, cette œuvre est sous-tendue par l'idée que le passage du temps n'est qu'illusion et que, de temps en temps, l'être humain peut sentir que son vrai moi est, je cite, « affranchi de l'ordre du temps ». Dans des lettres à ses amis, ainsi que dans certains manuscrits, Proust cite explicitement le nom d'Einstein et évoque une parenté entre leur manière de déformer le temps. Il me plaît aussi de penser que la visite d'Einstein à Paris au printemps 1922 a été l'occasion pour Proust de réécrire la célèbre phrase finale du temps retrouvé. Et d'après Céleste Albaret, effectivement, Proust a réécrit cette phrase en avril 1922. Cette phrase finale, dont vous pouvez voir la version complète, est une très belle évocation de la description spatio-temporelle des hommes occupant, comme des géants plongés dans les années, une place prolongée sans mesure dans un temps ajouté comme dimension verticale à l'espace. Et l'image des échasses indique bien cette verticalité. Merci.